De Toulouse. Bon. Ça le fait un peu moins, mais c'est toujours ça. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà compris, mais aujourd'hui, on va vous parler du retour vers Jérusalem du peuple. En fait, pendant cette année, au groupe de jeunes, on a pu étudier les livres d'Esdras et Néhémie, et donc on aimerait vous retracer un petit peu les points clés qu'on a pu voir. Donc on sera trois à pouvoir vous apporter des petites choses. Et pour ma part, j'aimerais qu'on puisse ouvrir nos Bibles en Esdras 1, et on va voir du verset 1 à 4, qu'est-ce qui est dit. En réalité, vous l'avez déjà entendu parce que dans le sketch, on l'a récité. Mais on va le relire. Donc Esdras 1. C'est juste après Chronique. Et on lit. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du Dieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. On a pu voir quelques aspects historiques dans la vidéo qu'on a pu voir, et j'aimerais en fixer quelques autres pour qu'on puisse bien comprendre où on en est arrivé. Alors, au travers de l'Exode, Dieu avait libéré des chaînes de l'esclavage son peuple de l'esclavage en Égypte. Et des centaines d'années plus tard, et avant ce qui nous est relaté en Esdras, Dieu avait déclaré à son peuple que s'il choisissait de rompre l'alliance qu'il avait conclue avec eux, alors il ne les bénirait pas, mais si au contraire il l'honorait, alors il serait béni. Et malgré, on peut voir ça en Jérémie d'ailleurs, en Jérémie 2, du verset 14 à 25, que vous pouvez regarder mais que je ne dirai pas. Et malgré tous ces avertissements, Israël et Juda avaient décidé de persister dans leur entêtement et de rejeter le Seigneur et se sont adonnés à l'idolâtrie. Ça, on peut le voir aussi en droit. Et conformément à ces avertissements, il a donc mis ces avertissements à exécution. Et les Assyriens ont déporté le royaume du Nord, donc celui d'Israël, et les ont dispersés sur tout leur territoire. Donc ça, c'était en -722. Et puis, un peu plus tard, c'était en -588, Dieu a utilisé les Babyloniens pour piller et presque entièrement dépeupler Jérusalem. Et c'est là où on est... Enfin, c'est l'histoire qui se passe juste avant. Et comme le royaume du Sud, Juda persistait dans son infidélité à l'Alliance, alors Dieu les a envoyés en captivité parmi les Babyloniens pendant 70 ans. Et ça, on peut le lire en Jérémie 25. Et donc cette punition n'avait pas pour but de les éloigner de lui, mais bien de les ramener vers lui. Et c'est ce qu'on va voir. Donc, dans ces versets 1 à 4, on voit trois aspects de Dieu, trois choses qui le caractérisent, que j'ai pu relever. Alors, la première chose, c'est que Dieu annonce, Dieu libère et Dieu donne. Alors, Dieu annonce, pourquoi? Et alors, pour savourer ce miracle, on peut dire, il va falloir revenir encore un peu plus loin et voir qu'est-ce qui s'était passé encore juste avant. Et pour cela, on peut lire... je vais vous le lire en Ésaïe 44, du verset 24 à 28, où il est dit, donc ce qui a été écrit, ça s'est passé bien avant même la destruction de Jérusalem, et il est dit, « C'est moi l'Éternel qui dit de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira tout mon plaisir, disant à Jérusalem, tu seras bâti, et au temple, tes fondements seront posés. » Voilà, Ésaïe, il avait écrit ça alors même que Jérusalem n'était pas en danger, n'était pas encore détruite ni pillée. Et on voit que Dieu avait déjà annoncé par avance ce qui pouvait se passer. Mais on voit aussi donc dans Esdras que tout cela s'est accompli conformément à ce qu'avait annoncé le prophète Jérémie. Et donc il y a une deuxième chose qu'on peut regarder, et c'est en Jérémie 25, 11. On peut lire. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone, pendant 70 ans. Et donc là même, avant que le peuple revienne et qu'on sache la durée réellement, Jérémie aussi avait prophétisé ces choses. Et c'est pour cela que 70 ans après, ça y est, le peuple de Dieu est enfin libre. Et par ces différentes prophéties, on peut vraiment voir le cœur de Dieu, j'ai l'impression. On peut voir que ses yeux sont tournés perpétuellement sur nous et vers ceux qui lui appartiennent. Et alors les événements de ce monde, tout ce qui peut chambouler ces choses, l'apparition des rois ou des personnes audacieuses qui voudraient s'emparer du pouvoir, ne sont en fait que des instruments dans sa main pour révéler sa gloire. Alors avec quel calme et quelle tranquillité on peut aborder les situations qui peuvent nous entourer, parce qu'on sait que Dieu tient tout dans ses mains. Alors après, je ne sais pas vous, mais moi, une prophétie, je trouve que c'est quelque chose d'assez puissant et qui montre vraiment un bel aspect de Dieu, puisque une prophétie, surtout quand c'est écrit noir sur blanc, si elle ne s'accomplit pas, alors ça décrédibilise complètement le message. Pourtant, ça a été écrit par avance et ça a été accompli. Donc on peut dire que toute parole de ce livre est inspirée de la bouche de Dieu. Et lorsque Dieu dit quelque chose, il l'accomplit. Et alors, c'est ce qu'on lit dans le verset 1. On lit « afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel ». Et ça, c'est encore une fois qu'une démonstration de la fidélité de Dieu à notre égard. Nous pouvons avoir cette assurance que Dieu tient ses promesses, même celles qui nous paraissent irréalisables pour nous. Un deuxième aspect donc, que je vais vous présenter, c'est que Dieu, dans ces quatre versets, libère. Et s'il fallait démontrer la puissance de Dieu, je pense qu'elle est vraiment parfaitement illustrée ici. Le peuple est donc sous l'esclavage du roi perse Cyrus, qui est à l'époque une grande puissance qui domine vraiment sur leur continent, on va dire. Et Cyrus même le dit, que Dieu lui a donné tous les royaumes de la terre. Et ce peuple-là est en captivité et sous ce joug, et ne peut pas se libérer. Pourtant, on apprend au verset 3 que le chef perse permet alors aux Juifs de retourner dans leur pays, à Jérusalem. Alors là, on fait un break, et puis on essaye de savourer un peu ce miracle-ci. Vous vous imaginez, vous avez 4 ans, à 5 ans, vous êtes déporté. Vous êtes donc amené, vous et votre pays, en captivité. Pendant 70 ans, vous êtes en esclavage par la main d'un autre pays. Et donc 70 ans plus tard, vous avez 75 ans, et là, vous êtes libéré. Mais derrière vous, il y a toute votre vie. Toute votre vie, vous avez été sous l'esclavage d'une autre nation. Et c'est là qu'on peut se rendre compte que les personnes qui ont pu vivre ça, ce retour, devaient vraiment remercier Dieu à ce moment-là. Et on voit que cette décision de Cyrus va vraiment à l'encontre de toute logique, puisque ce n'était pas dans son avantage de pouvoir les faire revenir à Jérusalem, et Jérusalem était une puissance à l'époque en plus. Alors je se posais cette question. Pourquoi Cyrus? Mais qu'est-ce qui t'a motivé? Alors je suppose que vous avez dû repérer la réponse dans le texte. On a déjà retracé un petit peu juste avant cette raison. Et on le constate au verset 1. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Et c'est là où Dieu nous demande sa toute-puissance. Il se place au-dessus des puissances, au-dessus des rois, peut nous dire un chant. Et non seulement il peut vaincre ceux qui s'opposent à son peuple, mais on remarque qu'il peut même se servir des dirigeants incroyants pour réaliser ses plans et les accomplir. De plus, on peut souligner, et c'est intéressant, que dans le verset 2, Cyrus, donc qui n'est pas du peuple juif, dit « L'Éternel, le Dieu des cieux ». Alors là, déjà, on peut trouver ça un peu bizarre, enfin, je ne sais pas moi en tout cas, je ne m'étais pas rendu compte directement, mais quand j'ai lu ça, je fais le roi des Perses est en train de reconnaître en fait que l'Éternel, c'est le roi des cieux, le Dieu des cieux. Et c'est comme si aujourd'hui, par exemple, on peut se dire, si on s'imagine que François Hollande dise « Ah oui, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné la France ». Alors bon, je ne sais pas, j'ai du mal à m'imaginer, ou Barack Obama qui dise la même chose. En tout cas, voilà, j'ai du mal, mais en tout cas, on peut le rêver à la limite. Eh bien, c'est ce que Cyrus est en train de faire. Cyrus est en train de prononcer ces mots. Et c'est là qu'on se rend compte vraiment que Dieu est derrière cette décision. C'est Dieu qui fait revenir son peuple dans la ville de Jérusalem, dans sa maison, il nous a même dit au verset 2. Jérusalem est vraiment la maison de Dieu. Et donc, C'est donc comme cela que, contre toute opposition, Dieu a choisi, de, pour montrer sa gloire, en fait, de faire revenir son peuple à Jérusalem. Il a choisi de le faire par la bouche de Cyrus. Donc ça nous rappelle un petit peu, je trouve, le récit de la libération d'Égypte. Par deux fois et de manière miraculeuse, Dieu a permis que son peuple revienne et soit libéré de l'esclavage de façon miraculeuse. Donc aucune situation n'échappe à Dieu. Il n'existe pas de roi sur terre plus puissant que Dieu. Nous croyons en celui qui a les clés de la Maison Blanche, de l'Élysée, où on peut généraliser en disant les clés de l'univers. Un troisième aspect, c'est que Dieu donne. Et l'expérience du peuple d'Israël qui nous est relatée doit nous profiter. C'est pour cela que Dieu a choisi de le mettre dans ses livres d'Esdras et Néhémie, qui sont donc attribués normalement toutes les deux à Esdras. Et qu'est-ce qui a amené le peuple d'Israël à subir le châtiment de Dieu? On trouve la réponse en Deutéronome 29, des versets 24 à 25. Et on lit « Toutes ces nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère ?» C'est la question qu'on est en train de se poser, non? Et donc il est dit, l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, le Dieu de leur père, lorsqu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Il nous est dit clairement que, à l'époque, ces personnes-là ont abandonné l'alliance que Dieu avait contractée avec Moïse. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, et pour nous aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut transposer cette histoire? En réalité, ce qui se passait dans ce passage-là, c'était lorsque nous étions sous une ancienne alliance. Puis, il y en a eu une nouvelle. Alors, on peut lire en Hébreux 8, vous pouvez tourner avec moi si vous voulez. On lit en Hébreux 8, au verset 6. En parlant de Jésus, il est dit, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Parce qu'en effet, les bénédictions de l'ancienne alliance dépendaient des œuvres. Elle exigeait l'obéissance de 613 lois pour obtenir les bénédictions de Dieu. Mais les bénédictions de la nouvelle alliance, et ça c'est très important, ne dépendent pas de nos œuvres. Comme dirait notre ami John Glass, c'est la grâce, pour ceux qui étaient là dimanche dernier. Ainsi, ceux qui croient en Jésus sont sous cette nouvelle alliance, et chaque promesse, chaque bénédiction annoncée dans la Bible nous est donnée. Dieu ne compte plus le nombre de nos fautes comme cela a été à l'époque d'Esdras. Il offre par grâce ses bénédictions. Cela dit, il est utile de rappeler une chose. Si Dieu nous donne toutes choses, il arrive bien souvent que l'on ne soit pas là pour les recevoir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il faut se rendre propice à l'accomplissement des plans de Dieu. Pour résumer, je dirais cette phrase-ci, les plans de Dieu se réalisent dans la vie du croyant lorsque celui-ci lui obéit. Donc qu'est-ce que nous allons pouvoir et qu'est-ce qu'on peut retenir? Attachons-nous aux promesses de Dieu, car elles se réalisent. Mettons toute notre confiance dans la fidélité de Dieu, parce qu'il a prouvé dans ses récits. Rien n'est impossible à Dieu. Il est au-dessus de toutes choses, au-dessus de toutes les puissances, au-dessus des rois. Nous sommes sous la grâce, nous possédons toutes choses en lui. Pour voir les plans de Dieu s'accomplir, obéissons-lui.
Et ainsi ils reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. La scène que vous avez vue à l'instant se déroule dans les chapitres 4 et 6 du livre de Néhémie. Dans certaines versions, le passage référencé chapitre 4, verset 1, commence plutôt au verset 33 du chapitre 3, pour certaines personnes, pour se repérer. On a vu en fait comment la reconstruction de la muraille de la ville de Jérusalem fut achevée malgré les oppositions et les embûches de leurs ennemis. Les dernières paroles de ces scènes, prononcées par Néhémie, se trouvent au verset 16 du chapitre 6. Les ennemis reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Mais s'ils le reconnaissent, c'est que peut-être ce n'était pas vraiment clair pour eux avant ce moment. Comment et pourquoi ils sont arrivés à le reconnaître? Est-ce que Néhémie lui-même le savait? Est-ce qu'il l'avait reconnu? Et les Juifs? Pour répondre à ces questions-là et à d'autres, sortons de notre test et examinons son contexte dans tout le livre de Néhémie. Au chapitre 1er, un frère de Néhémie lui rapporte l'état de Jérusalem qui est abandonné et en ruine. Très attristé, il se met à pleurer et à jeûner. Puis, poussé à prier, il reconnaît que c'est vrai. Israël a péché. C'est à cette étape de cette prière, que notre passage débute. Écoutons les versets 8 à 11 du chapitre 1. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les nations. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire demeurer mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'ai envie de dire amen. J'étais alors échanson du roi. En fait, dès le départ, l'espérance de Néhémie quant au retour de l'exil et à la reconstruction de la ville avait un unique fondement: la fidélité de Dieu à sa parole et à son dessein. Ces choses étaient déjà révélées dans la loi de Moïse et rappelées ensuite par les prophètes. Pour ces raisons-là, on comprend que c'est Dieu, le Tout-Puissant, qui en serait alors le maître d'ouvrage par la suite. Et voyons maintenant comment dans la suite le récit va nous le montrer. Quand Néhémie atteint la ville de Jérusalem, il fait plusieurs choses. Sans rien dire à personne, jusqu'au verset 16 à 18 du chapitre 2. Et je lis. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Néhémie rappelle l'état de la ville, mais ils le savent déjà. Ils vivent là et ça ne leur a pas suscité la foi pour se mettre en mouvement. Mais quand au verset 18, il leur raconte comment la bonne main de Dieu avait agi, ils disent ensemble, levons-nous et bâtissons. Même quand les ennemis viennent l'intimider, Néhémie ne perd pas de vue sa réalité. Écoutons les versets 19 et 20. Sanballat le horonite, Tobia le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. L'information selon laquelle le succès assuré par Dieu est donné même aux ennemis. Mais l'ont-ils seulement entendu? Suis-je en train de dire que les Juifs n'ont rien fait? Non. Si je le disais, Je serai en conflit avec le rédacteur du livre de Néhémie et son inspirateur, c'est-à-dire Dieu. Car il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Observez un peu le chapitre 3. Allez-y, regardez un petit peu le chapitre 3. Globalement, puis les passages, versets 16 à verset 23 du chapitre 4, ou pour certains, versets 10 à verset 17. Il commence par « Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient » et ainsi de suite. En fait, ce sont deux gros blocs où le rédacteur parle exclusivement des œuvres ou actions accomplies par les Juifs. Dieu travaille dans notre monde, mais il n'est pas une créature. Il est le Créateur. Et son mode caractéristique d'opération est d'agir en et avec ses créatures pour accomplir ses desseins. C'est le choix qu'il a fait. Cependant, sachons-le bien, si nous nous taisons, c'est des pierres qu'il fera monter des louanges pour lui. C'est pour notre propre bien et pour notre joie que Dieu nous demande d'obéir en agissant. Car il nous aime. Je vous renvoie pour cela à Deutéronome 28 pour toutes les bonnes conséquences de l'obéissance. En nous approchant des deux passages qui relatent les actions, c'est-à-dire le chapitre 3 entier et le passage dans le chapitre 4 que je viens de vous dire, que voyons-nous ? Le dernier verset du chapitre 2, donc qui précède le chapitre 3, il dit « Et je fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. » Et ainsi de suite. Le verset 15 ou 9 du chapitre 4 qui précède le deuxième passage dit « Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet. » En réalité, tous ces grands ouvrages et ces mesures de défense étaient impulsés et suscités par Dieu. Il fallait donc que le rédacteur le rende clair et évident pour nous qui lisons aujourd'hui. C'est Dieu qui accomplit ses desseins. Et il est heureux, celui ou celle qui se le rappelle nuit et jour. Observons maintenant la façon avec laquelle les attaques de l'ennemi sont traitées. Écoutons comment nous est racontée l'histoire. Et là, je vous propose d'écouter la lecture. Versets 1 à 5 du chapitre 4, je lis. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants ? Les laissera-t-on faire ? Sacrifieront-ils ? Vont-ils achever ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu ?» Tobia l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera la muraille de pierre. Écoutons, ô notre Dieu. Écoute, ô notre Dieu. Et là, c'est Néhémie qui parle. Comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils sont captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Première réaction. Néhémie prie. Il détourne l'attaque vers Dieu. Deuxième point, verset 9 du chapitre 4 ou verset 3 du chapitre 4 pour d'autres. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde du jour. L'action est précédée par la prière. Verset 15 ou 9 du chapitre 4. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille. L'action est précédée par l'anéantissement de Dieu. C'est Dieu qui agit. Verset 9 du chapitre 6. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Repense de Néhémie maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Et enfin, verset 14 du chapitre 6. Souviens-toi, ô Dieu, de Tobia, de Sambalat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. En réalité, toutes les attaques et les persécutions que subirent les Juifs avaient été traitées et résolues par Dieu. Et il fallait que le rédacteur le rende clair et évident à nos yeux, à nous qui lisons aujourd'hui. C'est Dieu qui accomplit ses desseins et il est heureux. Elle est heureuse, celui ou celle qui se le rappelle jour et nuit. Maintenant, qu'est-ce que Sambalat, Tobia et Allié avaient tenté de réussir? Quand quelqu'un me dit, tu vas échouer, tu es nul, à quoi travaille cet Oscar impuissant? Laissera-t-on Webens faire? Venons, attaquons-le. Comme mon adversaire m'intimide, m'envahit, m'insulte, essaie de me tromper. J'ai tendance à le prendre pour moi. Alors il a atteint son but. M'isoler de ma dépendance avec Dieu et de la conscience sans cesse ravivée que c'est Yahvé qui a établi d'avance des œuvres préparées pour que je les accomplisse. C'est Dieu qui accomplit ses desseins et il est heureux, celui qui se le rappelle nuit et jour. Terminons maintenant par là où nous avions commencé. Réécoutons le verset 16 du chapitre 6. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. On s'était posé la question au début de savoir comment et pourquoi même les ennemis étaient arrivés à reconnaître que c'est la volonté de Dieu qui s'était accomplie. Denis l'a très bien dit en parlant que Cyrus, le roi à ce moment-là du royaume le plus grand de la terre, en est arrivé à reconnaître l'Éternel comme le Dieu des cieux. Eh bien, il y avait un homme que Dieu a poussé à connaître et à prier cette volonté, c'est-à-dire Néhémie. Puis, à le dire à tous, aux Juifs et même aux ennemis, souvenez-vous au début, tout en se comportant tout au long de son ouvrage de façon cohérente à cette réalité qu'il avait saisie dès le départ. Et il s'est comporté ainsi face à l'épreuve. Chers élus, Dieu a pour dessein que toute nation, toute famille et tout humain reconnaissent en lui l'architecte bon et tout-puissant de toutes ces choses. La bonne nouvelle, c'est qu'il nous a élus pour en être les maîtres d'œuvre. Comment pourrions-nous y persévérer devant les embûches et les oppositions de l'ennemi si nous ne veillons pas à maintenir devant nos yeux que le maître d'ouvrage est tout-puissant, qu'il ne peut se régner lui-même? Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Connaissant ce dessein, en écoutant ce qu'il a décidé déjà d'avance, et que cet dessein trouve la foi chez ceux qui l'entendent. Amen.
L'histoire qu'on vient de regarder se trouve dans Néhémie 13. Je vous invite à tourner dans Néhémie 13, au verset 4 jusqu'au verset 29. Le titre de mon petit message s'appelle « Les réformes sont parfois nécessaires ». Alors nous voyons dans ce texte que Néhémie, il est parti de Jérusalem pour revenir vers le roi, comme il lui avait promis au deuxième chapitre. En son absence, le peuple retombe dans ses mauvaises voies, sous la direction du souverain sacrificateur Eliashib. Alors on va voir 4 péchés et 4 réformes que Néhémie a faites. Alors, en premier lieu, on va lire du verset 4 au verset 9. Avant cela, le sacrificateur Eliashib, établi dans les chambres de la maison de notre Dieu et parent de Tobija, avait disposé pour lui une grande chambre où l'on mettait auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du mou et de l'huile, ce qui était ordonné pour les lévites, les chantres et les portiers, et ce qui était prélevé pour les sacrificateurs. Je n'étais point à Jérusalem quand tout cela eut lieu. Comme on a dit, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. À la fin de l'année, j'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Eliashib en disposant une chambre pour Tobija dans les parvis de la maison de Dieu. J'en éprouvais un vif déplaisir et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobija. J'ordonnai qu'on purifie les chambres et j'y replaçai les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Vous imaginez le souverain sacrificateur, lui qui a une très grande influence sur le peuple de Dieu et à Jérusalem. Lui qui est censé être le leader du peuple d'Israël, ou un des leaders les plus importants. Lui, il invite l'ennemi des Juifs et on voit ce qu'a fait Tobija. Non seulement, en fait, il est parent avec lui, donc il y a des mariages qui se sont faits entre les deux familles, mais en plus, il l'invite à venir habiter au sein du temple. Le temple qui est l'endroit le plus saint de Jérusalem. Vas-y, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es souvent sacrificateur ou quoi? Ouais, en fait, ouais, il était loin de Dieu. Peut-être qu'il a fait ça pour donner la prospérité économique, ou peut-être pour faire alliance avec les peuples du pays pour qu'ils soient en paix. En tout cas, c'était contraire à ce que Dieu dit. Et on voit Néhémie venir. Quelqu'un qui n'a pas peur de montrer une attitude qui plaît à Dieu. Il arrive dans les parvis du temple et jette hors de la chambre tous les objets de Tobija. Alors certainement, il y en a qui se sont cassés. Eh bien, tant pis. Et ça ressemble beaucoup à ce que Jésus a fait 5 siècles plus tard, quand il est rentré dans le temple. Et que les gens vendaient des choses à des prix exorbitants. Ben lui, il a commencé à renverser des tables, à faire tomber toutes les pièces des échangeurs. Ben ici, nous avons quelqu'un avec la même attitude que Christ. Quelqu'un de qui on peut apprendre. Alors l'application pour nous, c'est que le chrétien ne doit faire aucun compromis. Comme Eliashib qui a fait un compromis peut-être pour l'aspect économique, nous ne devons faire aucun compromis dans notre foi. Obéir à Dieu en toutes choses, même si on faisait un petit péché là, on pourrait avoir des sous. Ah ben non, Dieu mérite tout notre cœur. Laissons-le purifier notre être entier, de la tête aux pieds. Lisons Néhémie 13, 10 à 14. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient point été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis, chacun dans son territoire. Je fis des réprimandes au magistrat et je dis « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée ?» Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du mou et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaja, l'un des Lévites. Et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation, réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela, et n'oublie pas mes actes de piété à l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être observées. » Enfin, nous savons que, certains le savent en tout cas, que le peuple d'Israël devait apporter des offrandes afin que les Lévites puissent se nourrir. On a vu dans le sketch, malheureusement, ils n'avaient pas de quoi se nourrir. Est-ce qu'ils vont rester là et mourir? Alors ils sont partis dans la ville natale ou la ville où ils ont grandi. Ou, non, parce qu'ils viennent de revenir. Ou là où ils ont commencé à être. Peut-être la vie de leurs ancêtres. Pour survivre, eux et leur famille, ils ont probablement travaillé dans les champs. Et donc, du coup, ils ne remplissaient plus leurs fonctions. Plus de Lévites pour travailler dans le temple. Et ils violent ce qu'ils avaient écrit, leur engagement qu'ils avaient fait dans le chapitre 10 de Néhémie. Ils avaient fait, dans ce chapitre, plusieurs engagements. Certains ont même signé un engagement, une alliance devant Dieu. Si on fait une alliance devant Dieu, il faut s'assurer qu'on la tient. Parce que mentir à Dieu, c'est quelque chose d'horrible. Il faut tenir parole. Et eux, ils ont promis de donner la dîme, d'apporter cette nourriture nécessaire aux Lévites. Ils ne l'ont pas fait. Ils s'étaient engagés aussi à observer le sabbat. Ils étaient engagés à ne pas se lier avec les peuples du pays par le mariage. Il y a des étrangers. On va voir qu'ils ne l'ont pas fait non plus. On voit l'attitude de Néhémie. Il remet les Lévites et les chantres à leur poste. Il confie la surveillance des entrepôts, là où il y a toutes les offrandes pour les Lévites, et la distribution de ces offrandes pour que chaque Lévite puisse avoir sa part et manger équitablement. Il remet ça à des hommes fidèles, des hommes qui rempliront bien leurs fonctions. Dieu recherche des hommes fidèles. Si on est fidèle et intègre, les hommes de Dieu, bien sûr, s'ils suivent le Seigneur, les hommes de Dieu nous confieront des tâches. Et bien sûr, il y a l'aspect, pour nous, l'application, c'est d'être zélé à servir le Seigneur dans son Église et à soutenir financièrement ceux qui travaillent dans l'œuvre. Moi, je t'assure que s'il y aurait zéro sou, s'il n'y aurait aucun soutien pour mes parents, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils vont manger? Comment ils vont vivre? C'est leur travail et ils ont besoin d'être soutenus financièrement. À nous de s'engager à aider les hommes de Dieu. Nous pouvons lire, Nous pouvons lire Néhémie 13, verset 15 à verset 22. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrés des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amenés à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens, établis à Jérusalem, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises, et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, « Que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous, vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat? Puis j'ordonnai qu'on ferme les portes de Jérusalem avant le sabbat, dès qu'elles seraient dans l'ombre, et qu'on ne les ouvre qu'après le sabbat. et je plaçai quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une ou deux fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, « Pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille ? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. » Dès ce moment, ils ne verrent plus pendant le sabbat. J'ordonnai aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. On voit bien que, selon la loi, le sabbat est un jour saint, un jour où il ne fallait pas travailler. C'était interdit. Dieu a tout créé en six jours, et le septième jour, il se reposa. Donc le septième jour, le sabbat, est un jour sanctifié par le Seigneur. Et il devait de ne pas travailler ce jour-là. Et ici, on voit que Néhémie voit des Juifs qui foulent le pressoir pendant le sabbat. Peut-être était-ce du blé. Je ne connais pas trop l'agriculture, mais qu'ils écrasaient. Enfin, ils faisaient leur moisson, quoi. D'autres apportent des sacs de grains pour les vendre à Jérusalem le lendemain. Des Tyriens vendent du poisson et toutes sortes de choses le jour du sabbat. Néhémie n'a pas peur. Il fait preuve de courage. Il réprimande les magistrats et les grands de Jérusalem, pourtant qui ont une grande influence sur les gens. Il n'a pas peur de leur parler. En ne respectant pas le sabbat, Néhémie dit qu'ils ont attiré la colère de Dieu. Et c'est un de ces péchés qui les a amenés à l'exil. Et maintenant, eux, ils font la même chose. Oh, mais ça ne va pas. Ils font la même chose que leurs ancêtres. Ils ont le même comportement. Alors Néhémie, lui, il décide de faire fermer les portes pendant le sabbat. Et il donne des instructions aux serviteurs pour qu'aucune marchandise ne soit introduite dans la ville. Les marchands, eux, ils passent un jour ou deux, une nuit ou deux devant la muraille. Et Néhémie menace ces marchands. Et alors, ils comprennent qu'ils ont affaire à quelqu'un de... avec des convictions et qui va mettre en application ces menaces, ils n'écoutent pas. Donc, ils s'en vont. Ils ont bien raison. Donc, une application pour nous, c'est de honorer le jour du sabbat. Pour tous les chrétiens, il est important d'avoir un jour de repos, un jour spécifique où l'on s'approche du Seigneur. On va lire maintenant les versets 23-29, qui est la dernière partie du texte. À cette même époque, je vis des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien et ne savaient pas parler l'hébreu. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Je leur fis des réprimandes et je les maudis. J'en frappai quelques-uns, je leur arrachai les cheveux et je les fais jurer au nom de Dieu en disant « Vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils et vous ne prendrez leurs filles ni pour vos fils ni pour vous. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël ? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères ? Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite. Je le chassais loin de moi. Néhémie aperçoit qu'il n'y a pas seulement des membres du peuple juif qui désobéissent à Dieu en prenant des femmes étrangères. Mais il voit que même des personnes qui devraient être proches de Dieu, les sacrificateurs, se sont mêlés à ces peuples par le mariage. Et même leurs fils ne savent même pas parler l'hébreu. Ils ont perdu leur identité de juifs. Néhémie n'a pas peur, il les réprimande, il en frappe quelques-uns et leur arrache les cheveux. Alors moi je vous dis, il n'a pas peur. Hein. Et entre parenthèses, c'est le gouverneur. Donc il est l'autorité de cette région, donc il a bien le droit de faire ça. Et il le fait, il obéit au Seigneur, il montre vraiment son dévouement envers notre Seigneur. Même le petit-fils d'Éliashib, le souverain sacrificateur, lui qui peut-être serait devenu le souverain sacrificateur, lui, il a épousé la fille de Tobija. La fille de Sambala, excusez-moi, fille de Sambala, un grand ennemi des Juifs. On voit que Sambala et Tobija, c'est les grands ennemis des Juifs. Et Néhémie le chasse. Dans ce passage, mais aussi dans le Nouveau Testament, la Bible est très claire que le chrétien doit épouser quelqu'un qui partage sa foi. Sinon, c'est un compromis avec le monde. Et on le voit des fois dans des familles, malheureusement, que cette base chrétienne, quand ce n'est pas partagé, ça fait des conflits et c'est bien malheureux. On voit dans ce passage que deux fois, Néhémie demande à Dieu de se souvenir de ses bonnes œuvres afin qu'il soit protégé et béni. Néhémie accomplit son ministère, mais c'est seulement grâce à Dieu qu'il a pu le faire et que son ministère va continuer. Comme on voit au verset 13, chapitre 13, verset 22, la deuxième partie de ce verset. « Souviens-toi de moi, mon Dieu, à cause de cela, et protège-moi selon ta grande miséricorde. » L'œuvre que l'on fait pour le Seigneur est éternelle. Peut-être que les hommes vont nous oublier, mais Dieu n'oubliera jamais les œuvres que l'on fait pour lui. Et au ciel, nous aurons notre récompense. Et moi, je préfère avoir une bonne récompense qui dure pour l'éternité, des centaines de milliers d'années, des millions, des milliards d'années, plutôt que de jouir d'un petit péché là ou là. Je préfère recevoir une bonne récompense au ciel. Nous avons vu ce matin que des réformes sont nécessaires. Et Néhémie, lui, il a fait des réformes. Mais la réforme la plus importante, c'est celle du cœur. C'est la nouvelle naissance. Jésus a dit, vous ne pouvez entrer dans le royaume de Dieu si vous n'êtes pas né de nouveau. Oh, il a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Ouais, non, c'est ça qu'il a dit. Donc, on voit à travers l'histoire d'Israël que même quand ils reviennent, les Juifs d'exil, au début, bon, ils suivent le Seigneur, ils se repentent. Et puis après, au chapitre 13, on voit encore, ils profanent le sabbat, ils ne donnent pas les dîmes aux Lévites, ils se marient avec des étrangers, des étrangères. On voit qu'ils recommencent à pécher. On voit qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Aujourd'hui, nous sommes bénis, frères et sœurs, parce que le Saint-Esprit habite dans notre cœur, en nous. Et il nous donne la possibilité de faire ses œuvres et d'obéir à ses commandements. Comme Ézéchiel l'a prophétisé en Ézéchiel 36, 27 à 28. je répondrai sur vous. Non, c'est pas ça. Je vous donnerai, c'est au verset 26 du chapitre 36, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est vraiment seulement grâce à Dieu que nous pouvons faire sa volonté. Ce n'est pas grâce à nous. C'est parce que lui a mis son esprit en nous qui nous aide à faire sa volonté. À lui soit toute la gloire et la louange. Voilà. Donc c'est la fin de notre culte. Je vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse et vous rapproche de lui.